Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les experts sont là.
Ève Roger.
Bonjour.
Christine Béroux.
Bonjour.
Roland Pérez.
Bonjour.
Alors cette semaine, mon cher Roland, dans l'actualité de l'hémicycle, il a été question de mettre un terme à l'école à la maison. Il s'en est fallu peu. Hein. Et finalement, le projet de loi présenté mercredi n'a pas interdit l'instruction à la maison.
Oui, il y a encore quelques semaines, le président Macron annonçait haut et fort que c'en était terminé avec la possibilité offerte aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école et les instruire à la maison. Il faut dire que de 2010 à 2020, le nombre d'enfants pour lesquels les parents font école a triplé en passant de 19 000 à 62 000 enfants, soit 0,5% des élèves en âge d'aller à l'école, en rappelant que l'école est devenue obligatoire, non plus à partir de 6 ans, mais de 3 ans depuis 2019.
Mais ça veut dire que ces enfants-là, ils suivent le truc à distance, là, le CNED?
Le CNED, non. Pas tous, non. Moins d'un tiers seulement, Pierre, suivent les cours à distance. En fait, la santé d'un enfant, un entraînement artistique ou sportif de haut niveau, un choix de méthode d'enseignement qui n'est pas très académique, les gens du voyage ou encore des enfants qui souffrent d'une véritable phobie scolaire font que les parents choisissent de faire école à la maison. On rappelle que jusqu'à présent, en droit français, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et non le fait de fréquenter un établissement scolaire.
D'accord.
Et jusqu'à présent, c'est auprès du maire de la commune où vit la famille et auprès du rectorat qu'on faisait l'académie, qu'on faisait une demande, il y avait une petite enquête, et puis il y avait un contrôle chaque année des données, ce qu'on appelle des données acquises, ce qu'on appelle le socle commun.
Donc concrètement, qu'est-ce qui va changer avec ce projet de loi?
Alors, si ce n'est que le gouvernement, au dernier moment, donc je l'ai dit, a revu sa copie en renonçant à interdire et en instaurant une plus grande surveillance et un encadrement des familles, la liberté d'enseignement va donc officiellement subsister, à la condition de privilégier les valeurs de la République à un embrigadement sectaire, radical et religieux. Et surtout, la grande nouveauté, c'est que le rectorat devra donner son accord sur chaque dossier présenté par les familles en examinant scrupuleusement les motifs des choix et le projet pédagogique.
Donc, il y a un suivi quand même du rectorat. Alors, Ève, une fois n'est pas coutume, vous allez nous raconter une histoire.
Oui, c'est vrai, la semaine dernière, je vous ai raconté un conte pour vous endormir. Là, c'est une histoire tout à fait réelle qui va vous maintenir éveillé, enfin, je l'espère. C'est l'histoire d'un préfet de la République qui s'appelle Serge Morvan. Il a 61 ans, on est en 2015, il est préfet des Yvelines. Avant, il a été directeur de cabinet d'André Valigny sous la présidence Hollande. Il est petit, aimable, tout en rondeur, mais très discret, car monsieur le préfet mène une double vie. La première avec son épouse officielle, la seconde avec sa maîtresse, avec laquelle il dîne et voyage à l'étranger.
C'est du tout classique dans la fiction, ça.
Sauf que la maîtresse croit que son amant a divorcé, qu'il est prêt à s'engager avec elle pour une nouvelle vie. Ils débutent ensemble, même une procédure de PMA pour avoir un enfant. Et la preuve que monsieur le préfet a divorcé, il lui a montré un certificat de divorce. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est un faux. Il l'a fabriqué lui-même avec les moyens du bord trouvés à la préfecture.
Donc il ne peut pas se marier s'il n'a pas divorcé.
Eh bien, au même mot, les mêmes remèdes. Il va effectivement promettre le mariage à sa maîtresse. Ils vont même fixer une date en 2017. Mais au pied du mur, pour justifier le report du mariage, le préfet fabrique cette fois un projet d'arrêté au journal officiel.
Rien de
la le voilà bombardé au cabinet du président Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc il dit à sa maîtresse, n'en parle pas, c'est pas fait. Alors l'excuse tient un moment. Le mariage est reprogrammé en mars 2018. Les bons sont publiés. Là, vous en doutez. Cette info, à nouveau. La fête se prépare. Le préfet se retrouve englué dans son mensonge. Voilà qu'arrive le jour J. La belle famille arrive, tout endimanché, sonne au portail de la préfecture.
Oh là là.
Et tombe nez à nez avec l'épouse officielle du préfet.
C'est là qu'il est démasqué.
Et voilà, la supercherie explose en plein jour avec le coup de fil de l'épouse à la maîtresse. On imagine l'échange. Et le 7 décembre dernier, c'était donc il y a quelques jours, et ben voilà, monsieur le préfet au tribunal, poursuivi par sa maîtresse pour tromperie et par l'État pour faux et usage de faux, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 25 000 euros d'amende.
Et on le précise, c'est la réalité. Ça n'est pas une fiction. Ève Roger, Christine, vous êtes soufflée là.
Et ben en fait, les garçons que je rencontre sont plutôt pas mal, en fait, par comparaison. Oui, alors moi, ce matin, j'hésitais entre deux sujets, soit la journée internationale de la musique métal qui a lieu aujourd'hui, soit l'intervention de Jean Castex de jeudi dernier. Donc finalement, je vais vous parler de cette musique que beaucoup trouvent inaudible, l'intervention de Jean Castex. Alors je suis un peu en colère parce qu'il a commencé avec de bonnes nouvelles pour finalement durcir les mesures sanitaires. C'était comme un petit ami qui te dit « j'ai jamais été aussi heureux avec quelqu'un ». Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous séparer. Et alors moi, ce qui m'a brisé le cœur, c'est d'apprendre que les théâtres et les cinémas ne rouvriront pas. Et je sais qu'en tant qu'humoriste, j'ai beaucoup de chance de continuer à travailler en radio. C'est pas le cas de tous mes amis, c'est pourquoi je les ai dirigés vers vous, Pierre. Vous trouverez sur votre bureau 48 CV.
Ah, voilà,
que
ça.
Des gens super
ça,
pour une émission spéciale la semaine prochaine. Pour Noël, rien ne change, il faut juste être pas plus de 6. Bon bah, nous c'est parfait, on est 4. Ève, Roland, Pierre, voilà, parce que vous êtes mes seuls amis. Hein. Donc, j'arrive à quelle heure, j'apporte quoi. Voilà. Mais alors, coup de grâce, Couvre-feu à 20h un 31 décembre parce que, je cite, cette soirée concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique. Et bien peut-être que moi qui suis célibataire, j'avais envie de rencontrer des ingrédients de rebond. Non mais c'est pas grave, je vais rester chez moi, écouter de la musique, feel good. Ah c'est génial. Alors après est arrivé Olivier Véran avec des chiffres, beaucoup trop de chiffres. Moi à tout moment je m'attendais à un... Mais il faut essayer de voir les choses du bon côté. Il y a des bons côtés. Par exemple, la courbe du taux de contamination n'était pas sans rappeler le Golden Gate. Voilà, ce qui nous a permis un petit peu de voyager pendant qu'on nous disait qu'on ne voyagerait pas. Et puis sinon, c'était assez touchant de voir réunis Castex, Véran et Darmanin. Avec un petit peu d'imagination, ce n'était plus une allocution du gouvernement, mais une émission type Boys Band 20 ans après. Que sont-ils devenus? Non, mais ça va aller, tout va bien se passer. Et un petit peu de musique festive pour fêter ça. On se sent beaucoup mieux tout de suite.
Merci Christine Béroux, merci Eve et merci Roland. À demain.
À demain. À demain.